Il était une fois un jeune homme babylonien qui, suite à une déception amoureuse, se retira de la cour du roi dans une maison de campagne sur les bords de l'Euphrate. Il s'y plaisait dans l'étude de la nature, dont il acquit de grandes connaissances, et, en bon philosophe des Lumières, osa espérer que ses talents de naturaliste puissent être utiles aux hommes. Il n'en fut rien, cependant, et sa sagacité lui valut même des soupçons de criminalité. C'est l'histoire rapportée par Voltaire dans Le chien et le cheval, le troisième chapitre de son fameux conte Zadig ou la destinée. Traduit devant la justice, Zadig plaide ainsi sa cause. Je vous jure que je n'ai jamais vu la chienne respectable de la reine, ni le cheval sacré du roi des rois. Voici ce qui m'est arrivé. Je me promenais vers le petit bois où j'ai rencontré depuis le vénérable Eunuque et le très illustre grand veneur. J'ai vu sur le sable les traces d'un animal, et j'ai jugé aisément que c'était celle d'un petit chien. Des sillons légers et longs, imprimés sur de petites éminences de sable entre les traces de pattes, m'ont fait connaître que c'était une chienne dont les mamelles étaient pendantes, et qu'ainsi elle avait fait des petits il y a peu de jours. D'autres traces, en un sens différent, qui paraissaient toujours avoir rasé la surface du sable à côté des pattes de devant, m'ont appris qu'elle avait les oreilles très longues. Et, comme j'ai remarqué que le sable était toujours moins creusé par une patte que par les trois autres, j'ai compris que la chienne de notre auguste reine était un peu boiteuse, si je l'ose dire. Il en va de même pour les talons égarés, qui s'avèrent être luxueusement ferrés d'argent à 11 deniers de fin. En tout cas, c'est ce que nous apprenons dans un deuxième portrait brossé d'après le profond et subtil discernement de Zadig. Dépositaire d'un savoir qui permet de reconstituer la forme d'une bête à partir des traces qu'elle laisse sur le paysage, le héros déchiffreur voltairien est également conteur. Il fait à partir des vestiges matériels le récit qui, pour l'historien Carlo Ginzburg, peut se résumer dans la formule « Quelqu'un est passé par là ». Si l'histoire dont s'inspire Voltaire est fort ancienne, elle n'en contient pas moins l'embryon d'un modèle épistémologique dont l'émergence silencieuse, je cite Ginzburg, se fit enfin entendre au XIXe siècle. Dans son essai « Signes, traces, pistes », il retrace la généalogie du paradigme indiciel ou synégétique jusqu'au patrimoine cognitif du chausseur, qui consiste à reconstruire les déplacements de proies invisibles à partir d'empreintes laissées dans la boue, de branches cassées, d'excréments, de touffes de poils, de plumes arrachées, d'odeurs confinées. Puisant dans le conte oriental repris par Voltaire, Ginzburg suggère « Il se peut que l'idée même de la narration ait vu le jour dans une société de chasseurs, à partir de l'expérience du déchiffrement des traces. Le chasseur aurait été le premier à raconter une histoire, parce que lui seul était en mesure de lire une série d'événements cohérentes dont les traces muettes, sinon imperceptibles, laissées par les proies. Son modèle s'appuie donc sur la prophétie rétrospective. Il se caractérise par la capacité à remonter, à partir de données expérimentales apparemment négligeables, jusqu'à une réalité complexe qui n'est pas directement expérimentale. Pour l'historien italien, la méthode du sage oriental consistant à induire des effets des causes qui ne sont pas reproductibles, se développe tout au long du XIXe siècle. Elle finit par se cristalliser sur trois axes des champs des sciences humaines, à savoir, dans les travaux de l'historien des beaux-arts Giovanni Morelli, du gentleman detective Sherlock Holmes et du père de la psychanalyse Freud. Dans les trois cas, la lecture des traces, parfois infinitésimales, qui permettent d'appréhender une réalité plus profonde, impossible à saisir par d'autres moyens, va de pair avec ce même renversement causal qui sous-tend toute une panoplie de disciplines conjecturales et en vu le jour au XIXe siècle. Je pense notamment à la phrénologie, à l'étude de l'histoire, l'archéologie, la géologie, l'astronomie physique, la paléontologie, pour n'en citer que quelques-unes. Il en ressort une image d'un processus intellectuel qui part du principe de l'inaccessibilité de l'objet ou du phénomène décrit ou étudié. Il s'agit ici d'interprétations inévitablement spéculatives, impossibles à vérifier en remontant la chaîne narrative jusqu'à l'ancrage dans un référent. Je voudrais donc proposer Suite au regard que nous avons commencé à porter sur l'étayage narratologique du paradigme indiciel, que c'est l'absence qui rend possible l'acte de la narration. Permettez-moi d'illustrer ce propos. Les animaux que nous décrivent Zadig finissent-ils par faire une apparition? Rien de la sorte. La vérité, mot que j'emploierai tout au long de cette communication, faute d'un terme plus approprié, donc la vérité du récit du héros herméneute de Voltaire ou du chasseur de Ginsberg ne peut donc éviter d'être une approximation figurative. C'est un récit dont le sens n'est pas une fonction inhérente ou émanant de l'objet narré, mais d'une technique narrative qui cherche à démontrer une relation de causalité et non pas de coïncidence entre les divers indices matériels que cet objet aurait laissés dans son sillage. La vérité n'est jamais qu'une vraisemblance, elle est tout simplement invérifiable. Il me semble que trois problématiques reliées se dégagent de cette brève réflexion sur l'activité du déchiffrement des restes fragmentaires pour reconstruire des totalités. Une problématique des origines. Le paradigme indiciel se résume à une tentative de reconstruire un récit du passé à partir d'une origine que l'on ne peut plus interroger. Il s'agit de tisser une trame narrative permettant de relier de diverses instances indicielles dans un récit dont le référent ultime restera toujours inaccessible. La vraisemblance de l'histoire construite dépend de la capacité du narrateur à remplacer le coïncident par le causal. Non seulement l'observation et la rationalité, mais aussi l'intuition et la sagacité, l'imagination et la fiction jouent ainsi un rôle nécessaire dans ces hypothèses. Deuxième problématique, une problématique de l'espace. La méthode de Zadig consiste à envisager un paysage dans sa matérialité, donnant lieu à des pratiques de relevé, d'interprétation et de reconstitution. La quête herméneutique sous-tendant cette méthode repose également sur une question de spatialisation, c'est de la vérité ou du sens, caché derrière ou sous les apparences et donnant lieu à une dialectique du surface et de la profondeur. Entre ce qui se montre, la réalité, et ce qui reste caché, se glisse ce que nous pourrions appeler l'espace du déchiffrement. Troisième problématique, c'est une problématique du pouvoir. Étant donné l'inaccessibilité du référent ultime du récit indiciel, la vérité ou le sens se réduisent toujours à la version la plus probable de ce qui se serait réellement passé. La plausibilité ou la vraisemblance ne peuvent éviter d'être une fonction des codes herméneutiques conventionnels, de relever d'une idéologie dominante et de l'autorité perçue du narrateur. Le triomphe dont parle Ginsberg lorsque l'on arrive à reconstituer l'aspect d'un animal que l'on n'a jamais eu sous les yeux témoigne donc d'un moment de consensus sur la vraisemblance d'une explication. Il s'agit de la confirmation sociale d'un paradigme d'interprétation. En déclinant ces trois problématiques, j'ai cherché à montrer les vecteurs qui fourniront la structure de ma réflexion sur un exemple privilégié de l'œuvre balzacienne. Donc c'est origine, espace, pouvoir. La portée littéraire d'un modèle qui tente de reconstruire l'histoire avec majuscule en construisant une histoire à partir de fragments dispersés, semble évidente. Quelle que soit la discipline dans le cadre de laquelle se déploie le paradigme indiciel, nous avons pu constater qu'il s'avère difficile d'y réfléchir sans avoir recours au vocabulaire narratologique qui sous-tend l'analyse littéraire. Dans cette perspective, il est à noter que l'essai de Ginsberg est parsemé de références à un genre littéraire en particulier, c'est le roman policier. Mais sans que ces références soient pleinement développées pour autant. Sans doute serait-il injuste de lui reprocher ce passage sur les références narrato-littéraires faisant partie de la généalogie de son modèle. En effet, si Ginsberg suggère que l'on trouve dans les explications de Zadig, je cite, « l'embryon du roman policier », se poser en critique ou en historien de la littérature ne fut clairement pas son objectif. Cependant, il me semble que l'on aurait tort de faire une croix sur la valeur de son modèle pour ce genre d'analyse. Dans la suite de cette communication, je voudrais partir du paradigme indiciel pour esquisser une poétique de la conspiration telle qu'elle se porte sur les problématiques des origines, de l'espace et du pouvoir que je viens d'évoquer. En ce faisant, j'en appellerai notamment à un roman couramment cité parmi les ancêtres du genre policier visiblement cher à Ginsberg, Une ténébreuse affaire de Balzac, de 1841. À travers une lecture du paysage de la conspiration, aussi bien littéral que romanesque, je chercherai à démontrer que la valeur du modèle ginsbergien pour cette histoire secrète de ce temps, je cite, va bien au-delà de sa conceptualisation en termes cinégétiques omniprésents dans le détail narratif du texte balzacien. Si donc l'importance et la spécificité d'une ténébreuse affaire en tant qu'illustration d'une poétique balzacienne de la conspiration que je me proposerai d'éclairer ici. Sur le plan intratextuel de la comédie humaine, cette histoire secrète de ce temps fait indéniablement écho à un des passages les plus célèbres du roman balzacien, à savoir le moment d'illusion perdue où le prêtre Carlos Herrera, alias Chacolin, alias Vautrin, accueille un Lucien Charnon suicidaire dans sa calèche et dans sa chasse gardée. « Vous ne me paraissez pas fort en histoire, » dit le pseudo-ecclésiastique au poète. « Il y a deux histoires, l'histoire officielle, menteuse, qu'on enseigne, l'histoire Adusum Delphini, puis l'histoire secrète, où sont les véritables causes des événements, une histoire honteuse. » Faisant pressentir les termes littéraires auxquels recourra l'espagnol pour décrire leur éventuel pacte faustien, « Je suis l'auteur, tu sors le drame », c'est un extrait qui présage également les dimensions narratologiques du couplet « pouvoir-savoir ». C'est ce binôme de la puissance et de la connaissance qui fournit la clé de la poétique balzacienne de la conspiration. Notons que la version officielle des événements, à laquelle s'opposerait une vraie histoire enveloppée de mystères, est un récit composé à Adusum Delphini, à l'usage du dauphin. Il s'agit, selon le grand dictionnaire universel du XIXe siècle de Larousse, d'une version de l'histoire en feuilles de vigne, un discours arrangé pour les besoins de la cause, accommodé au vu d'une partie. Difficile, dans cette optique, de ne pas voir dans ce faux récit une touche conspirationniste. De la même façon, le pronom vide « on », cet agent qui n'en est pas un, de la version mensongère de l'histoire qu'on enseigne, semble faire écho à l'image des autorités de l'ombre, invisibles mais toutes puissantes, peuplant l'univers symbolique du style paranoïaque. Ainsi, il me semble que ce bref extrait fournit un point de convergence pour les nombreux vecteurs sémantiques du mot « plot ». Car, si je m'efforce d'esquisser une poétique de la conspiration telle qu'elle s'inscrit dans la tradition française, la multiplicité sémantique de ce mot anglais, recouvrant les termes français « complot », « conspiration », « intrigue », « terrain », « graphique », « plan », entre autres, s'avère toutefois d'un intérêt non négligeable. Je me permets de renvoyer aux travaux fondateurs dans le monde anglophone des études littéraires, de Peter Brooks et de Janet Beiser, qui ont étoffé ces définitions avec originalité et érudition. Pour le premier, dans la littérature moderne, la signification de plot en tant que complot s'attache presque toujours aux autres. La ligne directrice d'une intrigue est bien souvent un complot ou une machination, une action concertée pour accomplir quelque objectif allant à l'encontre des légalités ostensibles et dominantes du monde diégétique, la réalisation d'un désir ayant rencontré du blocage ou de la résistance. De même, avec de précises références au projet balzacien, Janet Beiser fait remarquer « Les intrigues balzaciennes portant sur la famille sont inextricablement liées aux machinations contre la famille et aux caveaux familiaux. Le mot « plot » tel qu'il se déploie dans le contexte narratif balzacien, ne cesse de nous rappeler ses affinités sémantiques plus larges, la subversion d'un côté et la mort de l'autre. L'on découvre donc, inscrit en filigrane, dans le chevauchement sémantique dont témoigne la remarque de Carlos Herrera et les analyses que je viens de citer, les mécanismes de pouvoir et de manipulation sous-tendant l'activité créative et interprétative. Si je me suis permis ce détour via Illusion perdue, c'est parce que le bref récit d'édulcoration, voire de censure, qui fournit, porte sur l'étayage narratologique de la conspiration tel que je voudrais l'illustrer dans Une ténébreuse affaire. Rappelons-nous que ce qu'Herrera appelle les véritables causes des événements sont manifestement hors de portée, inaccessibles, et s'alignent du côté secret de l'antithèse officielle faux, secret vrai, qu'il établit. Comme nous avons pu l'observer chez Ginsberg, la référentialité de ce qui se pose comme la vraie histoire est affaiblie. Le référent absent, à savoir les véritables causes, s'ouvre sur un espace de conjecture où entrent en lice des récits concurrents. Si l'association balzacienne du secret et de la vérité n'a pas de quoi surprendre, elle redouble de signifiance dans le contexte d'un siècle caractérisé par un effort généralisé d'expliquer les phénomènes sociaux, en termes de causalité. Avec la toile de fond d'une société post-révolutionnaire à la recherche d'un grand récit explicatif qui ancre son autorité dans le retour aux origines, l'imaginaire littéraire du XIXe siècle prend forme dans le roman réaliste. C'est une forme qui, pour le critique David F. Bell, partageait une série de présupposés avec les nouveaux textes et raisonnements que commençait à produire l'étude de l'histoire. Non des moindres fut la conviction accordée au pouvoir interprétatif de l'explication causale et aux potentialités de ce genre d'explication. Il s'agissait de l'employer comme méthode pour déchiffrer le sens des événements en démontrant les séquences cachées de causes qui y auraient mené. La version mensongère de l'histoire diffusée, au moins selon le mystérieux interlocuteur du jeune homme de province à Paris, du dauphin jusqu'au peuple, repose précisément sur l'inaccessibilité des véritables causes cachées des événements. On peut supposer que celles-ci se révèlent seulement un happy few, comme le disait Stendhal, ayant un intérêt personnel dans les besoins de la cause, dont parle la définition de Larousse. La structure narrative de la conspiration est donc le fruit d'un référent absent, d'une cause ou d'une origine que l'on ne peut plus interroger. Établir la synonymie de l'officiel et du vrai passe nécessairement par une manipulation des catégories de la causalité et de la coïncidence. Il s'agit de créer une vraisemblance en reliant de manière causale et pas simplement coïncidente les divers éléments de la séquence narrative alternative avancée. Privée de quoi que ce soit qui permettrait d'ancrer le sens, la vérité, entre guillemets, de la version officielle de l'histoire, telle qu'Herrera l'a décrit, n'est pas une fonction des événements racontés, dont le récit est inévitablement et irrémédiablement coupé, mais du paradigme interprétatif dominant et de l'idéologie qui ne peut éviter de revêtir. Comme nous avons déjà pu l'observer chez Zadig, les problématiques du pouvoir et des origines sous-tendant la poétique de la conspiration créent un contexte discursif où vraisemblance devient synonyme de vérité. Si j'ai sous-titré ma communication « paysage, pouvoir et narration dans une ténébreuse affaire », donc ces trois termes jouissant d'une affinité sémantique avec notre mot-clé « plot », reste donc à éclairer comment la poétique de la conspiration, que nous avons commencé à esquisser, porte sur la question de l'espace. Passons donc de cette réflexion plutôt abstraite sur cette poétique à son illustration telle qu'elle se déploie dans une ténébreuse affaire. Ce n'est pas un hasard si j'ai choisi ce roman parmi tant d'autres possibilités. Certes, l'on trouve dans l'œuvre balzacienne des exemples adhérents de plus près au modèle classique du roman policier évoqué par Ginsberg, Maître Cornelius par exemple, voire Ferragus en quelque sorte, portant plus clairement sur la relation entre politique, conspiration, complot et historiographie, je pense notamment au Chouan. Mais il me semble qu'il serait difficile de trouver un texte où se nouent de façon plus étroite les questions de topographie, de sémiotique et de leur malaise qui nous intéressent. Nous avons déjà établi que le champ lexical du mot « plot » comprend aussi bien le complot et la conspiration, la trame narrative et l'intrigue, le terrain et le tombeau. C'est sur ces derniers que je me propose de me concentrer dans cette troisième partie de ma communication, en espérant démontrer l'importance de la spatialisation pour le paysage romanesque de la conspiration. Commençons avec un exercice qui est plus difficile qu'il ne peut paraître, résumer les événements qui constituent la ténébreuse affaire dont le roman porte le nom. En 1803, l'agent de police Corentin, protégé du redoutable ministre de la police, Fouché, arrive dans le département de l'Aube, accompagné de son acolyte Peyrade. Leur déplacement se fait à l'instigation de Malin de Gondreville, sénateur ayant fait l'acquisition des terres ancestrales de la famille noble de Simeuse. Malin a découvert que les Simeuse et leurs cousins, les Dautzer, émigrés proscrits, sont revenus clandestinement en France pour participer à une conjuration, c'est une fictionnalisation de celle organisée par Georges Cadoudal, l'affaire Pichegru, visant à renverser Napoléon. Ils se cachent dans un caveau secret de la forêt de Nodem, aidés par leur cousine Laurence de Saint-Signe et son homme lige Michu. Lors de la perquisition, Laurence se montre plus maligne que Corentin et l'humilie en le frappant avec sa cravache. 3 ans plus tard, les nobles, rayés de la liste des émigrés et paisiblement installés dans le domaine Saint-Signe, se retrouvent accusés de l'enlèvement du sénateur Malin, prisonnier dans ce même caveau où il s'était caché 3 années auparavant. Balzac s'inspire ici encore d'une autre affaire historique, c'est l'enlèvement du sénateur Clément de Ris, qui reste un dossier classé, à ma connaissance. Si les nobles sont innocents, ils sont également incapables de réfuter l'accumulation importante de preuves indirectes, portant à croire que ce sont eux les ravisseurs, qui tournent notamment sur des traces de fer identiques à ceux de leurs chevaux, d'où l'importance du modèle de Ginsburg pour ma communication. Tous sont déclarés coupables, seul le recours en grâce que fait Laurence auprès de Bonaparte sauve la vie de ses cousins, alors que Michu, fidèle jusqu'au bout, est exécuté. Le mystère qui reste à élucider est donc celui de savoir qui étaient les 5 sosies qui ont enlevé le sénateur, se faisant passer pour les nobles et Michu jusqu'au fer de leurs chevaux. La vérité est seulement révélée dans un épilogue situé 25 ans plus tard par un narrateur qui n'a pris aucune part aux événements qu'il raconte. Au cours d'une conversation de salon, Henri de Marcy fait le récit d'une 3e conspiration secrète enterrée aux autres. La récupération de documents compromettants relatifs à cette première conspiration, de nouveau contre Bonaparte, la veille de la bataille de Marengo en 1800, sur l'ordre de Fouché, sert de prétexte à Corentin pour se venger de l'humiliation que Laurence lui a infligée. Mais le récit de Marcet, qui se concentre sur les antécédents politiques des événements rapportés dans une ténébreuse affaire, ne semble pas avoir grand-chose avec l'histoire que nous avons lue. Lors de cette superposition de conspirations différentes, nous assistons à une curieuse dévalorisation du roman lui-même. L'épilogue témoigne donc d'un refus du processus de détection qui sous-tend le roman policier au sens propre du terme. Si Balzac joue avec ses dispositifs, la révélation finale d'une ténébreuse affaire est une technique littéraire et non pas le résultat logique. L'aboutissement d'un récit où la chose à prouver et la preuve sont conçues ensemble. Roman politique donc, roman historique, mais aussi, je voudrais suggérer, roman topographique. Car le parc de Gondreville, la forêt avoisinante et, surtout, le caveau qu'elle abrite constituent presque des personnages à part entière. Bien plus qu'une simple toile de fond à cette histoire de mystification et de machination, ce sont ces terres qui sous-tendent et façonnent le récit. Sensibles comme nous le sommes à la métaphoricité cinégétique du modèle de Ginsburg, il est approprié d'attirer l'attention sur le motif omniprésent de la chasse. C'est d'ailleurs la raison d'être du domaine. Bâti par un riche marquis uniquement pour se faire une belle chasse, le parc de Gondreville est un magnifique théâtre, je cite, la violence où se joue une chasse à l'homme bien plus sinistre que ce passe-temps de famille noble sous l'Ancien Régime. C'est une chasse étayée par des considérations politiques, comme le remarque le narrateur. L'homme de police a toutes les émotions du chasseur, mais en déployant les forces du corps et de l'intelligence, là où l'un cherche à tuer un lièvre, une perdrix ou un chevreuil, il s'agit pour l'autre de sauver l'État ou le prince, de gagner une large gratification. Ainsi, la chasse à l'homme est supérieure à l'autre chasse de toute la distance qui existe entre les hommes et les animaux. Cette distance entre les hommes et les animaux est pourtant remise en question dans la description des agents de police Corentin et Peyrade, Du limier à la piste fais inconnue et cachée, doté d'une agilité canine qui les portait à trouver le vrai par le rapide examen des probabilités. Mais comment cela se joue-t-il sur le plan topographique? Chaque fois que les discours romanesques nous signalent la présence d'un secret, des faits inconnus et cachés, ils nous indiquent que nous ne percevons des choses qu'une surface et laissent entendre que l'apparent n'est pas la totalité du réel. Le secret, qui sépare étymologiquement et sociologiquement, est lié à la structuration de l'espace. Comme nous avons pu le constater dans la remarque d'Herrera sur l'histoire officielle et l'histoire secrète, poser l'existence d'une conspiration, à savoir une machination secrète et cachée, aussi hypothétique soit-elle, c'est avoir recours à la figure de l'antithèse. Au visible s'oppose l'invisible, au connu l'inconnu, au superficiel le profond. Pour Chantal Massol, dont je vous conseille fortement le livre « Le récit herméneutique balzacien », c'est en cette dernière antithèse, du superficiel contre le profond, que se résument toutes les autres. Se construisent de la sorte les couples antithétiques spatiaux du dedans et du dehors, du dessus et du dessous, c'est pas évident pour un anglophone, la prononciation, de l'endroit et de l'envers. Il me semble qu'il est possible, suivant les travaux de Philippe Hamon, distinguer dans le roman de Balzac deux conceptions spatiales du déchiffrement. Un réalisme vertical, pour lequel, comme le voudrait Gaston Bachelard, le réel c'est le caché, et où il s'agira de mettre à jour, de révéler, de faire sortir le réel derrière ses façades, ses masques ou ses apparences qui les dérobent au regard. Donc c'est le modèle anatomique en quelque sorte. Et un réalisme horizontal du défrichement des surfaces, du tableau et du classement méthodique. C'est le modèle sémiotique. Le roman balzacien témoigne de la fascination que Pierre Macheret a pu identifier dans l'imaginaire du XIXe siècle pour, je cite, « les choses d'en bas ». En définissant son projet des connaissances sociales, de surprendre le sens caché dans cet immense assemblage de figures, de patients et d'événements, comme il le dit dans l'avant-propos de la Comédie humaine, Balzac s'inscrit dans un jeu du montré et du caché qu'il faut saisir pour que le réel devienne lisible. C'est, je cite encore Macheret, « un imaginaire de la profondeur qui incite la pensée à creuser ». L'investigation ne peut se contenter de parcourir la surface des choses, elle doit également se faire selon une dimension verticale. Le projet balzacien prend sens et corps au sein de l'épistémé de la profondeur qui, pour Michel Foucault, apparaît à la fin du XIXe siècle. Pour Foucault, à l'inverse de la représentation classique, dans la nouvelle épistémologie, classé ne sera donc plus référer le visible à lui-même, en chargeant l'un de ses éléments de représenter les autres. Ce sera, dans un mouvement qui fait pivoter l'analyse, rapporter le visible à l'invisible, comme à sa raison profonde, puis remonter de cette secrète architecture vers les signes manifestes qui en sont donnés à la surface du corps. Le roman se fait alors scalpel la société. Il dissèque afin de dégager les lois secrètes qui animent les phénomènes de surface. Mais est-ce vraiment le cas dans Une ténébreuse affaire où la secrète architecture dont nous parle Foucault est littéralisée et littérarisée, n'étant rien d'autre que le caveau souterrain, c'est-à-dire un vide sous la surface, un cercle au centre absent, en quelque sorte. Lieu de protection, mais aussi d'emprisonnement, il n'est que fonction, un signe sans valeur. Ce qui est clair, c'est que le récit s'articule autour d'une dialectique de la révélation et de la dissimulation où la topographie s'avère à la fois amie et ennemie. J'ai mis ici une page tirée des œuvres illustrées de Balzac, c'est l'édition de 1851, pour vous montrer ces images relevant de la secrète architecture dont nous parle Foucault. Car si la forêt de Nodème dissimule le caveau cachette et la fortune enterrée de la famille de Simoes, la terre trahit également les traces de fer de chevaux qui permettent aux chasseurs policiers de piéger les aristocrates et Michus. Dans l'optique du paradigme de Ginsberg, qui fournit notre fil conducteur, l'importance accordée aux faiblesses du modèle sémiotique est notable. Il y a un questionnement de la relation indicielle, un décalage entre les signes manifestes des traces de fer de chevaux et la fausse vérité du récit de la culpabilité des nobles à laquelle ils sont censés renvoyer. C'est une vérité profonde, anatomique, qui seraient situés sous terre ou derrière une surface. Comme ils spéculent, ils auront tué le sénateur et l'auront plâtré derrière quelques murailles. La réalité plus profonde qui, pour Ginsburg, peut être appréhendée à travers l'examen des traces, n'en est pas une. Nul besoin de préciser, les nobles sont, en fait, innocents. Quelqu'un est passé par là, en effet, mais ce n'était pas eux. Leur sortie en forêt est en réalité effectuée dans le but de récupérer la fortune familiale soigneusement enterrée, d'où la fatale remarque d'un des frères d'Utzer, le mot qui les perd tous, « Je veuille que notre chasse réussisse et tu retrouveras tes maîtres ». Ils sont pris dans un piège. Comme le leur dit l'avocat Bourdin, « Si, par malheur, vous disiez être allé chercher 11 000 francs d'or dans la forêt, vous enverriez tous les accusés aux galères comme voleurs. Accusateurs publics, jurés, juges, audience, et la France croirait que vous avez pris cet or à Gondreville et que vous avez séquestré le sénateur pour faire votre coup. En admettant l'accusation telle qu'elle est en ce moment, l'affaire n'est pas claire, mais dans sa vérité pure, elle deviendrait limpide. Les jurés expliqueraient par le vol toutes les parties ténébreuses, car royaliste aujourd'hui veut dire brigand. Sans référent qui permettrait d'ancrer la vérité ou le sens d'un récit, la possibilité de la manipulation narrative s'impose. Notons que les référents des deux récits concurrentiels, la fortune d'un côté et le sénateur enlevé de l'autre, sont manifestement absents. Il y a un trou noir, un gouffre interprétatif au centre de l'histoire comme au centre de la forêt. Il s'agit donc de l'imposition d'une explication, d'une interprétation à Doucement Delphini. Ce discours, arrangé pour les besoins de la cause, est donc la synonymie de royaliste et brigand qui alimente le récit de la culpabilité des nobles. La prétendue profondeur à partir de laquelle il faut remonter à la surface n'est en réalité qu'un vide, prête à être inversé d'une signification quelconque. Comme l'a écrit Roland Barthes à propos du mythe, le récit de la conspiration, je cite, préfère travailler à l'idée d'image pauvre, incomplète, où le sens est déjà bien dégraissé, tout prêt pour une signification. Par le biais du caveau au cœur de la forêt, le cercle au centre absent ou la surface à fausse profondeur, le roman thématise donc une figure de sa propre structure. S'ouvre un espace du déchiffrement où gagnera l'hermeneute conteur qui arrivera à créer une vraisemblance en reliant de manière causale et pas simplement coïncidente les divers éléments de la séquence narrative avancée. Impossible de prouver que la relation entre les traces de fer de chevaux et l'enlèvement du sénateur n'est que coïncidente quand le récit d'un lien causal paraît tellement plus plausible. En effet, dans le contexte historico-politique d'une société post-révolutionnaire ou royaliste veut dire brigand, le récit de l'enlèvement d'un sénateur républicain perpétré par des conspirateurs contre-révolutionnaires revancheurs jouit d'une vraisemblance supérieure à n'importe quelle autre version des événements. À cette fin, l'innocence doit un compte clair et plausible de ses actions. Le devoir de la défense est donc d'opposer un roman probable au roman improbable de l'accusation. Dans cette communication, j'ai donc cherché à esquisser une poétique de la conspiration qui repose sur des questions de référence ultime absent, une cause ou une origine que l'on ne peut plus interroger, et la relation difficile que maintiennent les catégories de la coïncidence et de la causalité dans un contexte narratologique. Là où se nouent les problématiques du pouvoir, de l'espace et des origines, ressemblance devient synonyme de vérité. Il s'agit de trouver le vrai par l'examen des probabilités. Si le récit d'une conspiration, ou, dans un sens plus large, du secret, peut se conceptualiser en termes spatiaux, ouvrant sur une dialectique du surface et de la profondeur, les modèles sémiotiques et anatomiques se retrouve pourtant remise en question dans l'exemple privilégié de l'œuvre balzacienne que nous avons examinée. Sur ce, je laisse le dernier mot à un personnage dont la soudaine apparition peut vous paraître incongrue, mais qui, à mon sens, résume parfaitement les enjeux de la poétique de la conspiration. C'est le gros coucou de Lewis Carroll dans « De l'autre côté du miroir ». La question est de savoir si vous pouvez obliger les mots à vouloir dire des choses différentes. La question est de savoir qui sera le maître, un point c'est tout. Merci.